Oh que oui, 10h01, bienvenue dans le Point de Max à Boulevard 102.1. J'étais sur le gun parce que aujourd'hui, mon Machine Gun Kelly, mon MGK, doit annoncer sa prochaine tournée, le Lost Americana Tour. Et d'habitude, c'est à 10h que ça se fait. Fait que là, vous comprendrez qu'il est 10h01. Puis que je surveillais bien attentivement tout ce qui est réseaux sociaux de MGK, son site internet et tout ça. Doit sortir une toune aussi. Ce qu'il avait annoncé, c'est qu'il allait sortir une nouvelle toune au moment de sortir son album. Sa tournée, son annonce de tournée. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Fait que va falloir que je trouve autre chose de quoi parler. Je sais que vous êtes bien déçus, là. Je sais que tout le monde attendait que ce show-là commence pour m'entendre parler pendant 10-15 minutes de Machine Gun Kelly, puis de sa tournée, puis de sa nouvelle toune. Mais je suis vraiment désolé à tous ceux qui s'attendaient à ça. On va vraiment devoir aller dans une autre direction ensemble. Fait que je vais arrêter de rafraîchir les pages d'à peu près tout ce qui se peut de MGK sur Internet, parce que vraisemblablement, c'est pas à 10h ce matin que ça se fait cette annonce de tournée-là, mais il nous a promis que ça allait être Wednesday. Puis Wednesday, ça, si mon anglais est encore pas pire, ben Wednesday, ça, c'est ça veut dire mercredi, puis c'est aujourd'hui. Fait qu'on va continuer de suivre ça ensemble. N'hésitez pas à me texter si jamais vous avez des nouvelles. Vraisemblablement, il y a au moins une personne qui était intéressée à entendre parler de MGK, c'est Philippe, qui dit « Hey, sérieux Max, on y va ensemble s'il vient à Québec ou Montréal, plus que déçu. » Ben, sois pas déçu, Philippe, parce que dans les prochaines heures, on aura l'occasion de parler ensemble de la tournée de Machine Gun Kelly. Puis ça a déjà comme fuité, là. Il passerait à Montréal, ce serait aux alentours de la mi-décembre, là, le 10, si ma mémoire est bonne. Il y avait comme une fuite sur Ticketmaster, puis on avait vu une date. Puis c'était MGK à Montréal, fait qu'on verra si cette date-là se concrétise au moment de l'annonce de la tournée de Machine Gun Kelly. Pour les autres qui s'en foutent bien raide de MGK, ben c'est bien correct parce qu'on a du stock en masse aujourd'hui, entre autres dans les prochaines minutes. Étienne Grandmont, député provincial de Taschereau, est maintenant officiellement candidat dans la course au co-porte-parole de Québec solidaire. Étienne Grandmont qui va venir s'asseoir avec nous en studio. J'ai aussi des billets pour les Remparts de Québec à vous offrir. C'est le match d'ouverture en fin de semaine, dimanche, du côté du centre Vidéotron. Puis il y a comme une nouvelle zone dans le bas des sections 108-109 qui est vraiment faite pour venir en gang de 20-30 personnes. Tu sais, c'est pas une place où tu vas, où tu peux te rendre en achetant des billets individuels, là. C'est vraiment, tu réserves la place pour ta gang puis tu vas là. La nouvelle terrasse alimentation première, puis exceptionnellement pour l'ouverture locale qui est en fin de semaine, ben je vais avoir des billets à vous offrir. Puis là, je vois que le téléphone sonne déjà, là. Ben c'est pas tout de suite que je fais ça, fait que vous allez devoir patienter un peu, mais c'est le fun de voir qu'il y a du monde qui était sur le gun. Je parle de téléphone pour appeler en studio, c'est le 418-780-1021. Pour me texter, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Il y a toujours le Twitch, la belle communauté qui est là, qui réagit ensemble aux différentes discussions qu'on a dans le Point de Max jusqu'à midi. Dans l'actualité, il y a quand même pas mal de choses là, à commencer, puis ça en a dévasté plusieurs ce matin, à commencer par Marceau. Vous auriez dû y voir la face quand j'ai annoncé la nouvelle dès que c'est sorti. Important incendie qui a causé des dommages majeurs au bord La Broussaille. Puis là, au début, il était pas sûr. Il disait « Max, ben là, tu me parles-tu d'un simple feu de broussaille? » Non, non, Marceau, je te parle du bord de danseuse La Broussaille. Des flammes qui se sont déclarés aux alentours de 4 heures du matin. Assez rapidement, là, on a été en mesure, du côté des pompiers, de maîtriser le tout, mais quand même, il y a eu le temps d'avoir des pas pires dommages. On dit que c'est un incendie suspect, donc la thèse criminelle qui n'est toujours pas écartée aux dernières nouvelles. Donc, espérons que tout aille pour le mieux pour La Broussaille et ses fidèles consommateurs. Aussi, c'est dans le journal ce matin, puis le journal est pas mal sur le gun là, pour tout ce qui est en lien avec le dossier Stéphane Huot, cet homme d'affaires qui a connu des difficultés dans les dernières années. Et là, ben, ce matin, on nous raconte que le gars, même s'il s'en allait dans des difficultés financières et qu'il voyait le mur arriver, ben, il a payé à peu près 400 000 $ pour une croisière en Antarctique, incluant un surclassement dans la plus belle suite du navire Scenic Eclipse, alors que justement, ben, il s'en allait dans le mur. Aujourd'hui, il reconnaît que c'est une décision qui était stupide, se justifier en disant que c'était le voyage d'une vie, puis que, en gros, là, comment il explique, c'est que ça devait avoir lieu, ce voyage-là, avant la pandémie, et là, finalement, ben, ça a été décalé pour les raisons qu'on connaît, puis c'était pas remboursable. Fait que rendu là, tant qu'à avoir déjà le bras dans l'engrenage, ah ouais donc. Le juge Jean-François Aymon, puisque tout ça c'est en cours, que ça se passe dans la, parce qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé avec l'argent de Stéphane Huot. Fait que ces déclarations-là, c'est en cours que ça se fait. Le juge qui doit déterminer s'il pourra être libéré de sa faillite personnelle de 460 millions qui a, dénoncé ce rythme de vie extravagant-là. Pendant qu'il profitait de ce luxe-là, les comptes de ses entreprises qui affichaient des découvertes qui atteignaient des fois plusieurs centaines de milliers de dollars, selon des preuves déposées, sa vice-présidente de finances et ex-conjointe Sophie Larochelle aurait procédé à des transferts qu'on juge douteux. Huot qui rejette la responsabilité sur elle, de son côté, a dit qu'elle a agi sous son influence. Et ben, ce que le juge a dit, c'est « Ouais, là, ces contradictions-là, à un moment donné, ça se peut que ça vienne peser quand même lourd dans la décision. » À lire dans le Journal de Québec, là, je vous ai fait la grosse histoire, mais il y a quand même des trucs super intéressants sur lesquels je suis passé assez rapidement. La Banque du Canada qui baisse son taux directeur de 2,75 à 2,50. Ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle là, pour n'importe qui a un prêt sur sa maison. Ça a un impact qui est direct là, sur l'argent qu'on sort de nos poches pour payer l'hypothèque. Fait que ça, évidemment, c'est une très bonne nouvelle. On va aller au téléphone. Je pensais que c'était des gens qui appelaient pour le concours. Allô, Boulevard.
Oui, c'est le billet des remparts.
Ouais, on va faire ça un petit peu plus tard, mon chum.
Merci.
Ah yes, merci d'avoir appelé. Il y a un autre appel. Allô, Boulevard. Ah, bon, lui, ouais, c'est ça. Il a comme compris, lui, avec. Hey, les pauvres, ça, je les ai laissés sonner longtemps. Là. Je pensais l'avoir mentionné que assez clairement que ça allait être plus tard, mais vraisemblablement. J'ai pas été assez clair. Je prends tout le blâme. Je prends tout le blâme pour ça. Les sondages, un matin, ça va bien pour la coalition Avenir Québec, vraiment. D'ailleurs, François Legault, hier, qui était du côté du Stade Canac avec quelques ministres. Et ça aussi, ça a bien été. François Legault au Stade Canac avant le match des Capitales. Là.
Ça s'est passé il y a quelques minutes au Stade Canac à Québec. Alors, retrouvez Alain Laforêt.
Ouais, un accueil des plus chaleureux pour le premier ministre du Québec hier avant la défaite de 7-1 des Capitales face aux Boomers de Schomburg. On pourra y revenir. Mais c'est drôle parce que cet extrait-là vient vraiment imager ce qu'on a sur papier dans le journal ce matin. Le remaniement ministériel de François Legault qui, à court terme du moins, les plus optimistes diront peut-être que ça peut encore changer. Mais à court terme, ouais, ça n'a pas eu l'effet escompté. Il y a un sondage léger, Le Journal, entre autres, qui nous dit que 7 Québécois sur 10 croient que le remaniement de la semaine passée donnera pas de nouvel élan au gouvernement. Il y a un sondage Somme le Soleil qui établit un constat qui est encore plus percutant pour ce qui est de la région de Québec en particulier. Puis il y a ça d'intéressant avec ça. Tu sais, quand j'ai vu les deux sondages dans les nouvelles ce matin, j'ai comme fait, bon, ben deux sondages qui vont nous donner à peu près les mêmes chiffres, c'est les mêmes affaires. Par contre, le sondage léger, Le Journal, c'est vraiment à grandeur du Québec, alors que le sondage Somme le Soleil, c'est vraiment pour la région de Québec, la région métropolitaine de Québec. Et ce qu'on nous dit, c'est que dans la région, ben, c'est 84 % des répondants qui ne croient pas à un effet de relance. Fait que c'est encore plus majeur. Le sondage, d'ailleurs, dans Le Soleil, qui nous dit aussi que le taux d'insatisfaction envers le gouvernement de François Legault, il est de 83 %. Ça inclut une personne sur deux là, qui est littéralement dans la catégorie des très insatisfaits. Fait que, tu sais, ceux qui ne changeront pas d'idée, puis que là, ils en ont assez, alors que quelques années, puis on regardait les vieux chiffres ce matin, là, mais souvenons-nous, pendant la pandémie de COVID-19, François Legault, qui était le premier ministre à travers le Canada le plus apprécié, François Legault qui apportait une présence rassurante au départ, puis tu sais, je veux dire, je suis plate coupable, là. J'ai vraiment fait partie de ceux qui, au début de la pandémie, puis là, je dis bien le début, là, quand on n'était pas dans les affaires de couvre-feu puis tout ça, je le trouvais bon en tabarouette, François Legault, dans sa gestion, alors qu'on était tous plongés dans l'inconnu, qu'on savait tous pas où on s'en allait. Ben François Legault était rassurant, puis François Legault semblait en contrôle, puis je me souviens pas mal plus qu'à l'époque que le fédéral. Je trouvais que le fédéral faisait un peu n'importe quoi, alors que François Legault, dans un contexte où c'était comme... Ça aurait été normal de faire n'importe quoi. On savait pas où on s'enlignait. Ben, je trouvais que François Legault, ça avait de l'allure en tabarouette comment il faisait la gestion de ce début de pandémie-là. C'est ça. Tout ça pour dire que pendant un bout, ça a été le premier ministre le plus apprécié par sa province respective à travers le Canada. Et là, ben on est complètement à l'inverse, alors que c'est celui qui est le moins apprécié. Pour en revenir au sondage léger, le journal, la CAQ qui perd un point dans les intentions de vote, c'est depuis le dernier sondage léger qui avait été fait en août. On est à 16 %. C'est moins pire que les 11 % qu'on a eu dans un récent sondage Palace Data où, littéralement, la CAQ se retrouvait derrière le Parti conservateur du Québec. Et ça, c'était une véritable catastrophe. Fait que là, du côté de la CAQ, on peut au moins se consoler. Puis encore là, je dis consoler, c'est abominable comme résultat de sondage. Mais c'est pas aussi pire que ce qu'on a eu il y a quelques jours de Palace Data où la CAQ se retrouvait derrière le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Là où il y a des choses qui se confirment quand on regarde qu'est-ce qui est pareil aux autres sondages des autres firmes, qu'est-ce qui est différent, ce qui se confirme, le Parti québécois, c'est sans équivoque, là, un gain de 3 points qui nous mène au premier rang avec 38 % des intentions de vote. C'est loin devant les libéraux de Pablo Rodriguez qui viennent gagner un point depuis le mois d'août pour pointer à 26 %. Il y en a beaucoup qui pense que ce 38 %-là pour le PQ est fragile dans le contexte où, on voyait, c'était hier ou avant-hier dans le magazine L'Actualité, un sondage qui nous montrait qu'une majorité de Québécois voulait absolument rien savoir d'un référendum dans un premier mandat. Puis fait que là, on va au-delà de pas vouloir un Québec-pays, de pas vouloir faire la souveraineté. C'est on ne veut même pas de référendum. Puis ce qui peut être un peu inquiétant là-dedans pour le Parti québécois, c'est que dans le lot, bien, clairement, il y a des souverainistes qui voudraient éventuellement d'un référendum pour faire du Québec un pays, mais que là, ils veulent rien savoir d'en avoir un dans un premier mandat. Puis je suis un petit peu dans cette catégorie-là, dans ce clan-là, parce que moi, tant qu'à faire un référendum en sachant qu'on s'en va le perdre, ben je tiens pas tant que ça. Là. À un moment donné, on parle beaucoup du fameux traumatisme là, de ceux qui ont vécu les deux ou juste un des référendums perdants, puis ça fait qu'à cette heure, ben, le mot référendum, ben ça fait peur. Ben, est-ce qu'on veut vraiment, du côté du Parti québécois, venir traumatiser les plus jeunes chez qui le mouvement souverainiste est en montée avec un référendum où on va manger une volée probablement encore pire que le premier qui avait été à hauteur de 60-40 % à peu près. Le deuxième, on était dans le 50-50, mais là, s'il y a un référendum demain matin, si on prend les chiffres actuels, ce serait pas impossible d'en arriver à un 70-30, là, ce qui serait une rince dont le Parti québécois ne se remettrait jamais et dont le mouvement souverainiste ne se remettrait pas. Dans le meilleur des cas, peut-être qu'on pourrait aller chercher un 60-40, mais dans un premier mandat, j'ai aucune idée de comment on peut aspirer du côté du PQ à aller chercher un référendum qui sera gagnant. Puis je sais même pas à quel point on y croit du côté du Parti québécois. Tu sais, je veux dire, Paul Saint-Pierre Plamondon est un homme excessivement intelligent. Même chose pour Pascal Paradis, avec qui on a parlé dans Marceau le matin. Je vous ferai d'ailleurs entendre un extrait tantôt, là. Puis ça se rattrape toujours en passant aussi sur le blvd.fm. Mais, tu sais, ces gars-là sont excessivement brillants. L'optimisme, c'est une chose, mais de penser qu'on peut en arriver à un revirement de situation tel qu'on va aller convaincre des centaines de milliers de gens qui, en ce moment, sont fermement fédéralistes puis de les amener du bord souverainiste en quelques mois dans un premier mandat, alors que les finances du Québec, ça va pas en tout... Je ne sais pas dans quel monde de licorne on vit si on y croit vraiment. Ou peut-être que d'un autre côté, on se dit du côté du Parti québécois, puis on le dira jamais ouvertement. Si on le dit, ben c'est peut-être à l'interne. Puis même là, ce serait dangereux qu'il y ait quelque chose qui sorte. Mais peut-être qu'on se dit du côté du PQ qu'on va le faire, le référendum, en sachant qu'on va le perdre, mais s'en servir comme genre de prétexte pour ramener le mouvement souverainiste à l'avant-plan, pour en parler, puis de mettre la table pour un quatrième référendum qui, on l'espère à ce moment-là, sera gagnant. C'est comme la seule option que je vois du côté du Parti québécois de logique. Puis encore là, est où la logique de se diriger volontairement dans un référendum perdant juste pour parler plus de souveraineté puis aller en chercher un petit peu plus puis après ça, peut-être aller chercher un référendum gagnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 418-971-1021. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le Parti québécois garde le cap. Pascal Paradis était encore très clair à cet effet-là ce matin. Marceau, il a gagé un vieux une pièce qui allait reculer le Parti québécois sur sa promesse d'un référendum dans un premier mandat. Pascal Paradis a dit « J'espère que tu ne tiens pas trop à cette pièce-là parce que tu vas la perdre. » Parlant de parti souverainiste, Québec solidaire, puis d'ailleurs, on doit accueillir Étienne Grandmont. Dans les prochaines minutes, député de Taschereau pour Québec solidaire, qui veut devenir co-porte-parole aux côtés de Riba Gazal. Québec solidaire qui perd dans le sondage léger dont on a les résultats ce matin, 2 points, et qui se retrouve à 9 %. Est-ce qu'on se dirige vers la mort de Québec solidaire? Puis encore là, gâtez-vous, là, 418-971-1021, oui ou non. Est-ce qu'on se dirige vers la mort de Québec solidaire? Qui, au moment où on se parle, ne ferait pas élire ben de députés, là, évidemment, aux prochaines élections provinciales. Mais au-delà de ne pas faire élire beaucoup de députés, c'est tout ce qui est la crédibilité en ce moment. Quand on perd des pourcentages dans les intentions de vote à chaque sondage, ben, ça peut devenir compliqué de venir parler de nos idées. On est un parti qui a voulu rester campé à gauche, ce qui a fait qu'il y en a plusieurs qui ont sacré leur camp. Puis c'est une question que je vais avoir, ça, pour Étienne Grandmont de Québec solidaire. Parce que là, c'est une chose de pas être en mesure d'élargir sa base puis d'aller chercher plus de monde puis de peut-être aller plus vers le centre pour aller chercher du monde. Mais là, c'est une autre chose de perdre du monde. Parce que pendant des années, Québec solidaire, c'était le parti des jeunes. Québec solidaire, c'était quasiment un automatisme pour les jeunes, parce que, souverainiste ou pas, ben, c'était le parti de gauche qui représentait les jeunes. Puis il y avait l'avantage, j'ai envie de dire, chez Québec solidaire, d'être un parti souverainiste, oui, mais qu'il cachait bien quand ça faisait son affaire. Puis pour preuve, pendant un bout de temps, quand tu regardais qui vote en faveur de Québec solidaire et souverainiste, VS qui vote Québec solidaire et n'est pas souverainiste, ben, il y a une majorité où ça s'approchait du 50-50 de mémoire, là, il y a une majorité d'électeurs de Québec solidaire qui n'étaient pas souverainistes. Alors que Québec solidaire est un parti souverainiste. Il y a une ironie là-dedans, mais tout ça pour dire que Québec solidaire, pendant des années, c'était le parti des jeunes. Et là, ben, on a l'impression que beaucoup de ces jeunes-là se tournent vers le Parti québécois ou même même vers le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime. Ça aussi, on le voit. On l'a vu dans les derniers mois, la montée. Puis autant, il y a des gens qui vont dire qu'Éric Duhaime, c'est pas la bonne personne pour mener ce parti-là à éventuellement à gagner des députés de plus en plus. Puis peut-être un jour, qui sait, prendre le pouvoir. Bien, autant, présentement, il y a personne d'autre qu'Éric Duhaime qui ferait une job aussi bonne à la tête du parti. Là, t'as besoin d'un visage connu. T'as besoin d'un gars qui s'exprime excessivement bien comme Éric Duhaime. Mais il y a des jeunes qui s'en vont voter pour le Parti conservateur du Québec aussi. Québec solidaire qui perd de ses appuis. On est toujours en attente d'Étienne Grandmont qui devrait venir nous rejoindre dans les prochaines minutes. En attendant, si on poursuit dans les nouvelles au niveau provincial, quoique quelques textos qu'on peut prendre le temps de lire. Max, j'ai 27 ans, je vais voter non s'il y a un référendum. C'est pas pantoute le bon moment. Ça n'a même pas rapport dans le contexte actuel. Ça, c'est Vincent qui nous dit ça. 88-971-101, numéro par texto pour réagir. Guillaume, donc, ils vont dilapider de l'argent public pour un référendum perdant pour ramener un mouvement. C'est clair que je ne voterai pas pour eux. Guillaume qui fait référence à ma genre de théorie à laquelle je crois pas non plus. C'est juste que j'essaie de trouver la logique là, dans ce que veut faire le PQ, de se lancer dans un référendum qui assurément sera perdant. Ma théorie qui dit, est-ce qu'on veut faire un référendum en sachant qu'il va être perdant, alors que dans un contexte où on veut simplement recommencer à parler de souveraineté, puis qu'une campagne référendaire irait convaincre du monde, puis que là, petit à petit, on sait qu'on perdrait le référendum, le troisième, mais qu'on aurait gagné du monde assez pour espérer gagner le quatrième après ça. Comme je vous dis, c'est une hypothèse que je lance. Je suis pas sûr que ça fasse du sens, mais ça fait pas plus de sens de se lancer dans un référendum en pensant que tu as des chances de le gagner dans un premier mandat, alors qu'actuellement, n'importe qui de lucide sait qu'il n'y a aucune chance qu'un référendum pour la souveraineté du Québec soit gagnant dans le contexte. Salut Max, moi j'ai 25 ans, je suis 100% pour la séparation. J'ai une question pour toi. Es-tu pour un référendum dans un premier mandat? J'ai donné l'exemple tantôt. Je suis pour la souveraineté du Québec. Peut-être moins qu'avant. Avant, c'était... On dirait que quand t'es jeune, c'est très émotif plus que rationnel, mais mon côté rationnel, il voit encore des avantages, puis mon côté émotif est encore 100% en faveur. Mais la personne qui a texté, qui a 25 ans, est encore 100% pour la séparation. Est-ce que t'es pour un référendum dans un premier mandat en sachant qu'il sera perdant? D'ailleurs, là, on parle des textos, là, mais si vous voulez appeler pour avoir des discussions, c'est quelque chose que je veux commencer à faire un peu dans le show. 88-780-1021, si vous voulez jaser du phénomène d'appui à la souveraineté du Québec, 88-780-1021 par téléphone pour me jaser. Oui, je pense qu'il faut brasser un peu pour savoir où on va. Ben vois-tu, c'est là un peu ma théorie de dire, est-ce que le PQ veut justement brasser la soupe, voir, OK, on se lance vraiment là, dans une campagne référendaire. On en parle de la souveraineté du Québec. Puis on voit où ça mène, en sachant que ce sera fort probablement une défaite, mais on aura jasé. On va voir combien d'appui on est capable d'aller chercher, tu sais, de passer d'un 30-35%. On est-tu capable d'aller chercher, je sais pas moi, un 42, un 45% d'appui. Puis à partir de là, apprendre des erreurs peut-être qui ont été faites dans la campagne référendaire et de préparer une quatrième campagne référendaire, un quatrième référendum sur la souveraineté du Québec, puis espérer de gagner lui, je sais pas. L'erreur de Québec solidaire, c'est d'être devenu un parti à prépondérance féministe qui s'adresse peu aux jeunes hommes. On a... Oui à un gouvernement souverainiste, non à un référendum perdant. Faut d'abord aller convaincre en utilisant nos leviers existants. Ben ça, c'est un point que je partage. Je pense qu'avant tout, présentement, dans la situation actuelle, les Québécois veulent un gouvernement qui a du bon sens. Puis après ça, si ce gouvernement-là nous montre qu'il est capable de gouverner une province, ben let's go, il y en a peut-être qui vont dire « Ah, sais-tu quoi? » Moi, je pense qu'il peut gouverner un pays aussi. On a, Alex, j'ai 38 dans mon jeune temps. On va dire de 15 à 22, 23 ans, j'étais pour la séparation, mais un jour, on devient lucide et découvre que ce serait vraiment une mauvaise idée. Ben, c'est une opinion qui se vaut. Il y a encore des gens plus âgés qui restent souverainistes. Puis tu sais, des Paul Saint-Pierre Plamondon, puis des Pascal Paradis, puis des Pascal Bérubé, ce sont des hommes brillants. Je ne serais pas prêt à dire que ce sont des hommes qui manquent de lucidité. Ils sont excessivement intelligents, ces gars-là. Mais c'est clair, tu sais. Puis, moi, que tu sois pour ou contre la souveraineté du Québec, je pense que des deux bords, il y a des avantages. Puis après ça, ben, quand tu rentres dans. Si tu es pour la souveraineté, ben, c'est sûr que tu vas devoir prendre des décisions en conséquence. Il y en a beaucoup qui disent, par exemple. Ben moi, je serais peut-être pour la souveraineté si on va de l'avant avec l'exploitation de nos ressources naturelles. Parce qu'à ce moment-là, ben notre économie pourrait être forte. Alors que si on n'exploite pas nos ressources naturelles, ben qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme pays, là? Parce que des études qui disent que le Québec pays serait viable, il y en a. Il y en a plusieurs. Même François Legault a déjà préparé un beau bilan de ça il y a plusieurs années, lui-même. Le Québec s'est prouvé serait viable économiquement, mais la question de l'exploitation des ressources naturelles, c'est sûr que ça devrait être mis à l'avant-plan. On continue dans les textos, 418-971-1021. J'aurais voté toute ma vie pour le PQ, mais je le fais pas à cause de la souveraineté. C'est un parti auquel je m'identifie, mais je crois aussi que l'union est la solution. Ben, à ce moment-là, je suis curieux de savoir, la personne qui a écrit ça au 418-971-1021, qu'est-ce qui fait que tu t'identifies autant au Parti québécois alors que le Parti québécois est un parti souverainiste. Pourquoi c'est le parti auquel tu t'identifies le plus, mais t'es pas souverainiste? Je serais intéressé à en savoir plus. C'est quoi l'avantage d'être souverainiste? Là, c'est sûr qu'on pourrait entrer dans un long débat. Là. C'est sûr que l'avantage numéro un, c'est de garder notre argent et de faire ce qu'on veut avec notre argent. Et de là vient un peu l'idée de, un gouvernement péquiste gagnerait peut-être à gérer comme faut les finances d'une province, nous montrer que, OK, ça serait payant de gérer les finances d'un pays. Puis peut-être que là, il y en a qui embarqueraient dans le bateau. Toujours beaucoup de textos, 88-971-101, c'est le fun. Je suis pour la séparation, mais pas le référendum. Bon, ça, c'était Sam, 22 ans, là, qui nous dit qu'il faut gérer une province, puis après ça, un pays. Alors, juste comme ça, si le Québec devient indépendant, qui va payer le fameux 40% du tramway? Le fédéral n'aura plus rien à voir là-dedans, je me demande, avec la dette immense du Québec. Bien, ça, c'est une question qui est intéressante. À ça, n'importe quel souverainiste répondrait que le 40% du tramway, ben on le paierait, mais la différence, c'est qu'on n'enverrait plus d'argent au fédéral, parce que là, on envoie de l'argent au fédéral, puis après ça, le fédéral redistribue ça un peu partout. En gardant tout notre cash ici, toutes nos taxes, tous nos impôts, ben on peut décider ce que nous, on veut faire avec notre argent, puis le 40% du tramway se paierait avec ça, par exemple. On se défend comment? L'armée. Ça, c'est un point intéressant. Le Parti québécois, ça va faire partie de ses grands défis aussi. Parce que le Parti québécois va nous présenter dans les prochains mois un beau document où on va devoir nous expliquer comment fonctionnerait un Québec-pays. Puis ce document-là aura intérêt à être béton, à être solide. Parce que il y a des fédéralistes qui l'attendent, ce document-là, puis qui attendent juste de le ramasser, de trouver les failles et de défoncer ces failles-là. L'armée, la défense, va en faire partie. Parce que si on nous arrive avec juste on va s'associer avec le Canada pour garder l'armée, la défense du Canada. Là, il y en a qui vont dire, OK, mais ça sert à quoi de se séparer de bord? Le livre bleu, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle du côté du PQ, là, se devra d'être excessivement solide. On continue dans les textos, c'est vraiment cool, il y en a beaucoup. Meilleure possibilité pour gagner dans un premier mandat. Élection fédérale dans un an, quelques victoires des libéraux minoritaires encore, et que le bloc soit vraiment fort. Le discours de PSPP, vous voyez que le Canada retient le Québec et qu'il ne changera pas car les libéraux ont un autre mandat minoritaire. Votez pour nous, on va changer les choses, nous. Ben, c'est un scénario qui fait bien du sens. Merci, PO. On n'est même pas capable de faire des écoles avec le bon nombre de classes. C'est en effet, de là je reviens avec le Parti québécois serait peut-être avantagé de nous montrer qu'il est capable de gérer une province avant de vouloir faire un pays, puis là peut-être qu'il y en a qui embarqueraient. Comment peux-tu devenir souverain si tu veux pas parler anglais pour négocier des ententes avec les États-Unis et le reste du monde? Ouais, ben ça, je trouve que c'est très... Isabelle, je trouve que c'est très, très, très dans la simplicité, en tout respect, là. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon parle 4, 5, 6 langues, dont le danois, là. Les dirigeants sont capables de parler anglais. Je pense que en tant que pays, t'arrives devant les États-Unis, t'arrives devant Donald Trump, je pense pas qu'on va vouloir absolument une rencontre en français. Je suis pas sûr que c'est ça ton point, là. Je suis pas sûr de bien le comprendre, Isabelle. Ça sert à rien d'en faire un autre premier mandat si t'es réélu pour un deuxième en parlant de la souveraineté pendant le premier. Bingo. Excuse-moi, Max, mais tu m'as pas dit c'est quoi l'avantage? L'avantage d'être souverainiste, ben je l'ai dit, c'est de un des avantages. Puis là encore on pourrait partir pendant un bout, puis tout seul serait un peu plate là aussi. Mais c'est de gérer notre argent, c'est de gérer nos affaires. Ça, c'est un avantage. Après ça, est-ce que ça nous permettrait de mieux gérer? Ça, c'est une autre question à laquelle j'ai pas la réponse. C'est pas moi qui vais être premier ministre du Québec. En tout cas, pas tout de suite. Stéphane, pourquoi pas arrêter de dédoubler les services gouvernementaux et garder juste ceux du fédéral pour éviter des coûts supplémentaires? ben l'inverse est bon aussi. En devenant un Québec pays, ben tu coupes les services du fédéral, les fameux dédoublements, puis t'en sauves de l'argent avec ça aussi. Là-dedans, il y a des questions techniques, il y a des affaires de perte d'emploi aussi, qui fait que ça devient un petit peu touché là, comme dossier. Christian, j'ai une nouvelle pour lui. L'armée canadienne n'est pas en mesure de nous défendre anyway. Par rapport à la question de l'armée tantôt. C'est un point qui se vaut aussi, Christian. Bref, la solution à tous nos futurs problèmes vont être réglés par l'argent qu'on envoie au fédéral. Donc, jamais. On verra le bout d'économiser en se séparant à ce que j'entends. Ça fait tellement réagir à toutes les fois qu'on parle de souveraineté du Québec. Les textos qui entrent 418-971-1021. C'est un gouvernement seulement et uniquement souverainiste? Non. Il y a d'autres politiques. Le PQ... c'est le gars qui a écrit tantôt, Goffy, qui a écrit qu'il aurait voté toute sa vie pour le PQ, mais qui n'est pas souverainiste. C'est un gouvernement seulement et uniquement souverainiste? Non. Il y a d'autres politiques. Le PQ est selon moi un parti qui pense à la population, à l'identité des Québécois, par exemple. Je suis d'accord pour augmenter notre représentation, notre identité, mais pas de se séparer. On est le mouton noir du Canada, mais on en est aussi fiers. Rappelons-nous la charte de Pauline Marois. C'est un exemple d'affirmation québécoise, mais sans se séparer. C'est la nuance. Puis ça, tu sais, il y en a plein qui vont voter pour le Parti québécois aux prochaines élections, malgré la en guillemets, menace référendaire. Puis après ça, rien ne les empêchera, ces gens-là, de voter non au référendum, c'est bien correct. Jérôme, même si le pays serait viable, le problème réside dans la gestion de nos impôts et taxes qui sont faramineux et mal utilisés, dans le Canada aussi. Le PQ, les libéraux et la CAQ ne sont pas en mesure de bien gérer les revenus. L'histoire nous le démontre bien. Vote QS si tu veux voir un pays devenir communiste et en faillite dans les quatre années de leur mandat. Parlant de QS, je commence à penser que notre ami Étienne Grandmont ne sera pas là ce matin. Devait être là à 10h15, mais bref, pas de problème. Jean-Marie, quel argent qu'on va utiliser? Bon, encore dans les... Tu vas quand même payer 50% de taxes et impôts. En effet, l'avantage, c'est que si cet argent-là est bien et mieux géré par un Québec pays, puis j'en ai pas la certitude en passant. Là. Moi, je détiens pas la vérité. J'essaie de faire de mon mieux avec les connaissances que j'ai, puis je pense que ça pourrait être une bonne chose de gérer 100% de nos taxes et impôts. Est-ce que ça veut automatiquement dire qu'on gérerait mieux ça? Non. Là, on regarde le 4 novembre au fédéral. Ils vont nous présenter un déficit qui risque de s'en aller vers les 100 milliards de dollars. Ça aussi, c'est à réfléchir. Là. Oui, on a beau dire que le gouvernement du Québec, c'est pas facile, la gestion des finances, ben c'est pas toujours plus beau à Ottawa non plus. Stéphane, la force du nombre des populations a aussi un effet sur la force d'un pays. On le voit actuellement avec les USA, on est traité comme un chien de poche. Si on se sépare, on sera encore plus petit face à notre nouvelle réalité 2025. Et pour clore le dossier, j'ai l'impression, quoi que ça risque de continuer de faire réagir, mais à un moment donné, on va fermer le micro. Le problème, c'est principalement les syndicats au Québec, tant qu'on revoit pas cet aspect-là, oubliez ça. La construction d'un restaurant est 250% plus cher au Québec qu'en Ontario. Bref, plein de bons points. Super belle discussion sur la souveraineté du Québec. Merci à tous d'avoir embarqué là-dedans. C'était pas ce qui était au plan, mais quand ça réagit comme ça par texto, ben on va toujours pousser le sujet puis jaser avec vous autres. C'est super cool de savoir que vous êtes là dans le point de Max. Il est quelle heure? 10h34 au retour. Je vous fais passer un extrait d'une femme qui nous a appelé dans Marceau le matin aujourd'hui. Vous avez peut-être vu passer les photos dans le journal de Québec. Elle a passé sur le pont de Québec, puis il y a littéralement des morceaux de pont de Québec qui sont tombés sous son char. Elle nous raconte ça. Après la pause, vous écoutez le Point de Max. Le Point de Max. 10h41 dans le Point de Max à Boulevard. Présentement à Québec, c'est un 18 degrés. Belle journée, on attend 24 et ça pourrait monter jusqu'à 29 avec l'humidex, 29 ressentis. Un 17 septembre, ça se prend bien. On va en profiter parce que demain, c'était supposé être beau, là, mais là, finalement, on a un 30% de possibilité d'averse qui est venu se pointer le bout du nez dans les dernières heures. Fait que demain, des possibilités d'averse, mais après ça, beau week-end. De vendredi à dimanche, c'est que du gros soleil avec des températures de 17, 16 et 21 degrés. La nuit de vendredi à samedi, ça va descendre à 2 petits degrés. Fait que 29 aujourd'hui avec l'humidex, Puis dans 48 heures, un genre de 2 degrés. Vive le Québec au mois de septembre. Dans l'actualité, communiqué qui est entré dans les dernières minutes du service de police de Lévis, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a procédé à l'arrestation de 3 individus. On a fait une perquisition aussi de domicile du côté de Québec dans le cadre d'une série d'introductions par effraction et de vols survenus dans les commerces de Lévis et de Québec. Un dossier qui a permis de résoudre un total, nous dit-on, de 8 dossiers des événements qui sont survenus entre le 28 août et le 14 septembre. Grâce à la collaboration du bureau des enquêtes du SPVQ qui enquêtait aussi sur des dossiers du genre, il y a une perquisition qui a été menée dans un logement de l'OMHQ, OMHQ, dis-je mal, situé à l'intersection du boulevard Charest-Ouest et de Marie de l'Incarnation. Deux hommes de 44 ans qui sont détenus doivent comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Québec pour des chefs d'accusation d'introduction par effraction de vol de plus de 5 000 $, vol de véhicule, possession d'outils de cambriolage, possession de biens criminellement obtenus et bris de probation. Le troisième homme de 46 ans qui a été libéré sans condition. Quand on a fait la perquisition, les enquêteurs qui ont saisi une partie des biens volés, un véhicule volé dans la région de Bellechasse et une arme à plomb. Il y a un autre véhicule aussi volé à Québec à la fin août et utilisé pour commettre les infractions qui ont été retrouvées dans Bellechasse au courant de l'opération. Je vous en parlais ce matin avec Marceau. On a reçu un appel d'une femme qui roulait en fin de semaine. Elle s'appelle Sophie Pouliot. Elle roulait sur le pont de Québec en fin de semaine. Puis elle s'est mise à recevoir des débris qui tombaient du ciel. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est des débris de structure du pont de Québec qui sont tombés sur sa voiture. Jeff qui a réussi à la contacter. Et comme je vous dis, on lui a parlé ce matin dans Marceau le matin.
Hey, on a le plaisir de jaser
12 terrains de football.
Aïe, aïe, aïe.
Fait que c'est vraiment
c'est du max. Stock.
Et effectivement.
Discussion ce matin dans Marceau le matin avec la femme qui est en une présentement du Journal de Québec parce qu'elle a reçu dans les derniers jours littéralement des débris du pont de Québec sous son char pendant qu'elle traversait le dit pont de Québec. Il y a des photos des débris en question, évidemment, qui sont restés sous son char parce qu'elle a continué à rouler après ça. Elle s'appelle Sophie Pouliot. Elle s'est arrêtée un petit peu plus loin dans le secteur de l'aquarium. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a pu prendre en photo les débris qui restaient sur son char. On s'entend qu'il y en a qui sont comme tombés avant, là. Bref, discussion super intéressante, puis un peu... puis tu sais, je veux pas... moi non plus, je veux pas embarquer dans le game de le « Soyez prudent, le pont de Québec va tomber demain matin ». Mais est-ce qu'il y a des débris de pont de Québec qui sont supposés te tomber sa tête pendant que tu roules dessus? Je ne pense pas. Comme on disait ce matin, ça aurait pu être hyper dangereux pour quelqu'un en décapotable, pour quelqu'un en moto, même quelqu'un en vélo qui passe sur le pont de Québec. Je veux dire, ça te tombe sa tête aussitôt que tu roules à une certaine vitesse. Ça aurait pu être dangereux pour bien du monde aussi. Tu sais, les réflexes, là, t'as de quoi qui te tombe du ciel sa tête quand tu t'en attends pas sur le pont de Québec? Bien, ça se peut que tu aies malheureusement le réflexe de donner un coup de volant puis que ça donne un événement super malheureux. Fait que si vous voulez réécouter cet entretien-là qu'on a eu ce matin avec Sophie Pouliot, qui a reçu des bouts de pont de Québec sur la tête en fin de semaine, bien, ça se retrouve sur le blvd.fm. Il y a aussi l'application Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit sur les routes, 418-971-1021 par texto. Vous allez d'ailleurs avoir besoin de ce numéro-là dans la prochaine heure parce que j'ai des billets pour vous pour les Remparts de Québec en fin de semaine et pas n'importe quel billet. Des billets pour la terrasse alimentation première. Ça inclut pizza, popcorn à volonté, une consommation d'alcool, le billet pour évidemment la terrasse et le match. On fait ça dans la prochaine heure. Je vous vois appeler encore là, un spot suite, puis deux, ben on va faire ça par texto au 418-971-1021. Fait que préparez vos textos. Au retour de la pause, c'est l'open mic d'Audrey Pinchot. Vous écoutez le Point de Max, il est 10h54.
Le Point de Max.
11h01 dans le Point de Max. Il nous reste une belle heure à faire ensemble. Présentement à Québec, c'est 18 degrés, généralement nuageux. Ça va se dégager cet après-midi. On attend un 24 et possiblement jusqu'à 29 ressentis avec l'humidex. Demain, c'est 30% de possibilité d'averse avec 24. Vendredi, samedi, dimanche, c'est du gros soleil avec des températures qui sont juste super confortables, des 17, 16 et 21. J'attire votre attention dans la nuit de vendredi à samedi. J'ai dit qu'on allait ressentir possiblement 29 cet après-midi. Dans la nuit de vendredi à samedi, ça va descendre à 2 degrés. Fait que vive le Québec en septembre, Audrey, hein?
Mais moi, j'aime ça, là.
Qu'est-ce que t'aimes?
Ah, moi, je suis une fille d'automne, je suis une fille d'hiver.
Toi, passer de 29 à 2 degrés en 48 heures, tu tripes bien raide.
Puis imagine le lendemain matin quand tu vas faire sûrement, j'imagine, autour de quoi?
4,5.
Mais c'est génial.
Moi, quand je me lève, c'est 4. Là.
L'air est frais. J'adore ça.
À 2 degrés, l'air est pas frais. À 2 degrés, l'air est frette.
Mais moi, j'aime ça. Je suis vraiment une fille d'hiver. Moi, j'ai déjà entendu la première neige, j'ai hâte de sortir mon snow, mes skis, skidoo, tout ce que tu voudras, puis profiter du dehors. Je suis pas une fille d'été. Moi, quand je rentre dans mon char le matin, je viens de prendre ma douche, puis je suis déjà du pinch, Max, là. Ça m'insulte. Fait que j'aime ça.
On a un problème, Audrey, là.
C'est quoi?
À 10 heures, j'attendais la sortie de l'horaire de tournée de Machine Gun Kelly.
C'est pas sorti encore.
Parce qu'il nous a dit que c'était... Fait que là, je me suis dit, OK, d'habitude, c'est 10 heures, les annonces de tournée. Là, ça doit être 11 heures. Là, je viens de tout refaire mon check-up. Il n'y a pas encore d'annonce de tournée de MGK.
Qu'est-ce qu'on fait? En plus,
ben oui,
MGK, hey, là,
puis attends, j'ai mon hoodie MGK, j'ai mon t-shirt MGK en dessous.
S'il vient chez nous, tu prends des billets, j'imagine?
Ben, c'est sûr, on sait déjà, ça a comme leaké. Il est supposé être à Montréal s'il n'y a pas de changement le 10 décembre.
Fait que ça s'en vient vite quand même.
Ça, d'après moi, ça va être dans les premières dates de la tournée, là, parce qu'il l'annonce ne commencera pas dans 2 jours. Là.
Je vais probablement t'accompagner.
C'est vrai?
Ben oui.
OK. Fait que, puis mais tu sais, là, on sait qu'il y aurait Montréal. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas Québec.
Ben, c'est ce que je souhaite pour vrai qu'ils viennent à Québec. Ça m'épaterait, on dirait, par exemple.
Oui, oui, parce que, tu sais, déjà qu'ils fassent un Centre Bell à Montréal, ça m'a comme surpris. Là, je m'attendais plus à la Place Bell, alors que là, dans l'horaire qu'il avait comme leaké, ça serait le Centre Bell. Un Centre Vidéotron à Québec serait peut-être poussé un petit peu. Bref, assez parlé de MGK parce que là, on reçoit des plaintes par texto. Audrey, de quoi on parle dans l'open mic aujourd'hui?
Je suis vraiment excitée parce que j'ai cette curiosité-là un peu malsaine de tout ce qu'on ne côtoie pas ou connaît pas au quotidien. Je dis curiosité malsaine, mais je pense qu'on l'a tout cela. Là. Je veux dire, on regarde pas des documentaires de meurtre pour rien. Là. On veut savoir ce qui se passe dans les prisons. On veut comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui font du mal. Puis, vous avez peut-être vu passer l'article concernant Hugo Fréchette, qui a été condamné, pour vous rappeler, à la prison à vie pour 2 meurtres, dont celui de son ex-conjointe, qui cherche l'amour en ce moment via un site de rencontre pour détenus. Et là, c'est peut-être moi, mais...
Fredette.
Comment je l'ai dit? Fredette?
Fréchette.
Fredette. Excuse-moi, okay. Fredette. Je l'ai débaptisé.
Pas trop.
Non, t'as bien fait de me reprendre. Hugo Fredette. Ça serait plate qu'on accuse un Fréchette. Hugo Fredette, qui est condamné donc à prison à vie pour 2 meurtres, dont celui de son ex-conjointe. Puis on s'est dit... Quel beau sujet d'aller dans les dessous du pénitencier, tu sais. Pas l'amour est dans le pré, mais l'amour est dans le pen.
L'open mic. Just in time for open mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
T'es quand même bonne, là.
Ouais.
Avoue.
Oh ouais, ouais.
T'as ri.
Ah, ben, j'ai été surpris, Audrey. J'ai été surpris.
Quand on parle de l'univers du pénitencier, ben, j'ai toujours la même ressource. C'est un gars qui a fait 25 ans de service du côté de Donnacona. Il a été agent de correction 1, agent de correction 2, gestionnaire correctionnel, négociateur en situation d'urgence, groupe tactique d'intervention. Bref, il connaît son milieu carcéral. Carl Ruel, agent correctionnel à la retraite. Bon matin. Elle était bonne, hein?
Oui, très bonne.
Je suis toujours curieuse de ces sujets-là parce que les dessous du pénitencier, c'est pas quelque chose qu'on connaît, on dirait, ici au Québec. Mm-hmm. On sait à peu près ce qui se passe, on entend ce qu'on entend dans les médias quand il y a une situation précise qui arrive, mais le day-to-day, le quotidien, un peu moins.
T'es jamais allé passer une nuit, toi?
Non, c'est dans ma to-do list. Ceci dit, là, j'ai toujours été curieuse de visiter, mettons, une institution.
Mais visiter comme tu vas pas commettre un crime.
Je ne souhaiterais pas commettre un crime pour passer une nuit en prison.
OK, c'est ça. Parce que quand tu dis que c'est dans ta to-do list,
ben, du côté de Trois-Rivières, tu sais qu'il y a une prison dans laquelle tu peux dormir, une vieille prison.
Je suis déjà allé visiter ça quand j'étais jeune avec ma famille.
Pour vrai? Ouais. Moi, j'ai l'intention d'y dormir à un moment donné. Je ne sais pas, ça m'a toujours intrigué. C'est étrange, mais c'est ça. Carl, je ne savais pas que c'était possible de rencontrer via un site de rencontres pour détenus, sincèrement. Je me disais, c'est sûr qu'il y a ça, là, des gens qui rentrent en dedans puis qui ont déjà une conjointe, des enfants. Il y a peut-être des femmes qui se pointent là, des lettres qui se... Mais c'est comme si, dans ma tête, il n'y avait pas accès techniquement à Internet et donc pas à un site de rencontres. C'est comment l'amour au pénitencier?
pour le détenu, mettons, qui n'a pas de conjointe là, en rentrant, OK? C'est beaucoup utilitaire, OK? C'est qu'après, mettons, une relation plus ou moins soutenue, la femme va être enregistrée comme visiteuse et contact du détenu. Puis, suite à plusieurs visites régulières, va pouvoir être considérée, mettons, comme une conjointe et avoir accès aux visites familiales privées. Souvent, pour accélérer les choses, on va même aller jusqu'à un mariage.
Et arrête donc, toi.
Ouais. Il y a des détenus qui se marient en prison, là, effectivement.
Parce que sinon, mettons qu'il n'y a pas de mariage, le processus peut être plus long, avant qu'on ait accès à ces rencontres, entre guillemets, privées-là. Ouais. Alors que si tu te maries, t'es automatiquement...
Automatiquement, tu deviens conjoint, okay. Donc ça embarque le processus. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, tu vas être éligible. Il y a quand même des vérifications qui se font. Mais effectivement, il y en a plusieurs qui vont aller à cette étape-là assez rapidement.
Fait qu'ils ont accès à des relations intimes en prison. Je sais que ça a l'air niaiseux au bout comme question, mais...
L'idée de départ derrière ce qu'on appelle les visites familiales privées, OK? C'est qu'à un moment donné, les grands penseurs du service v'là bien des années, là, pour... se sont dit, faut quand même garder un lien avec la communauté extérieure pour les détenus, parce que ces détenus-là, à un moment donné, vont sortir en conditionnel, vont sortir en fin de mandat, vont retourner, et ça peut être un support pour les aider dans la réinsertion, d'avoir un contact avec la vie extérieure. Ces visites-là, c'est accessible aussi pour les parents, les enfants, le détenu qui a déjà des enfants, tu sais, qui a déjà une famille. Donc, l'idée de départ, la bonne intention, elle est là, OK? Pour les aider à garder un contact avec le monde extérieur, pour que ça fasse moins une cassure lorsqu'ils sortent. Malheureusement, les détenus étant des détenus, bien, plusieurs vont utiliser ça à des fins carrément...
Mais c'est sûr. Pratique, on va dire.
Ouais.
Mais mettons un Hugo Fredette, là.
Oui.
Qui a été accusé de double meurtre, dont celui de son ex-conjointe. Là.
Oui.
Ma question est la suivante. Est-ce que tout le monde a droit à ces rencontres intimes-là et le plus-plus qui vient avec? Parce qu'il me semble que...
Il y a une enquête avec le comité de gestion. On fait des vérifications, là, quand même, des choses à respecter. Après ça, nous autres, on soumet le dossier au comité de visite, qui eux autres vont faire l'évaluation finale et décider si la personne peut être éligible. Le standard de ces visites-là, ça serait 3 jours. OK? Mais on voit quand même régulièrement, surtout à Donnacona, on va voir régulièrement un espèce de compromis, une journée. OK? Ça peut même aller à une journée sans dormir sur place. C'est-à-dire que
OK, ils peuvent sortir carrément du pénitencier.
Non, c'est à l'intérieur. C'est quand même à l'intérieur. C'est un endroit en retrait des blocs cellulaires. C'est comme trois logements, dans le fond, bâtis, à l'intérieur des clôtures. Mais la visiteuse, mettons, dans ce cas-là, vient au pénitencier. On les rentre dans ces logements-là, qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs que ce logement-là et une mini-cour extérieure. Et là, normalement, la norme, c'est 3 jours. Donc, la visiteuse, la famille vont dormir sur place. OK? Mais des fois, pour aller graduellement, soit parce qu'on a un doute, soit parce qu'on veut façon de mettre à l'épreuve pour voir si ça se passe bien, pour différentes raisons, ça arrive des fois que la visiteuse va arriver le matin. On va la ressortir le soir, elle va retourner chez eux.
Fait que ça leur donne comme une impression de vie normale le temps de quelques heures.
C'est le but thérapeutique de ce programme-là. C'est de les sortir de l'univers carcéral pour leur faire vivre une expérience de vie comme plus normale.
Mais y a-t-il des caméras, de la surveillance autour de ce logement-là? Quelque chose, parce que je me dis, nous,
on continue à faire les comptes
okay.
de la même façon que si le détenu était dans le bloc cellulaire. Donc, on va voir, et quand on fait le compte, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste vérifier la présence du détenu, on veut voir tout le monde. OK? S'il y a un bébé qui dort, je vais dire, OK, mais soit je rentre, soit vous me l'amenez que je vois le bébé qui est en bonne condition.
Okay? Pour s'assurer que tout le monde est
pour là. S'assurer que tout le monde est en bonne condition. Et il y a le téléphone qui est dans la place. Si quelqu'un décroche le téléphone, ça sonne dans un poste de contrôle, de surveillance, pour avoir un accès direct. Donc, si jamais ça
urgence.
Il y a urgence, soit une urgence médicale, parce que c'est pas toujours des gros événements, mais s'il y a une urgence médicale, ou s'il y a un événement de violence, ou si la personne ne se sent pas bien d'être présente, n'importe quoi, décroche le téléphone.
C'est déjà arrivé?
Puis nous autres, oui, c'est déjà arrivé.
Ah oui.
On a beaucoup d'histoires qui sont déjà arrivées.
C'est au combien de temps, les check-up? Ils ont-tu le temps de faire l'amour? C'est la question que tout le monde se pose à la maison. Ils ont-tu le temps d'avoir... Ils ont-tu la paix assez longtemps pour faire l'amour dans la roulotte?
Oui, oui, oui.
Okay.
Oui. C'est quelques fois par jour qu'on va faire le compte, là, mais entre deux comptes, ils ont le temps de...
ils ont le temps de faire ce qu'ils vont faire, mettons.
C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, quand je dis que c'est souvent utilitaire, là, pour les détenus, là, OK? Je pense pas que vous autres vous viendrez l'idée de mettre les enfants dans la cour à maison pour aller avoir du sexe dans la chambre, mais c'est des choses qu'on va voir.
Ah, okay? C'est tellement malheureux.
C'est tellement utilitaire qu'on a déjà vu une grand-mère arriver et avoir caché de la drogue dans les choses du bébé.
Oh,
okay? Fait que quand je dis utilitaire, tu sais, puis là, je suis convaincu que tu as des messages qui disent bon, c'est donc bien des préjugés, c'est ça, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Les femmes. Puis là, je fais la distinction entre le couple existait avant l'incarcération et le sujet de l'article qui est de un nouveau, créer une relation. Oui. Là, ben, pour les détenus, c'est presque exclusivement. Là, j'ai pas vu souvent de relations. Là, ça aboutit après ça à quelque chose de bien durable là, après. T'sais.
Je comprends donc. Qui sont ces femmes-là? T'sais, on est des préjugés, mais je veux dire, on va y aller comme du monde, des préjugés.
C'est
là,
ça.
Parce que jamais dans 100 ans, je vais me retrouver à Donnacona pour aller visiter
ben,
qui que ce soit.
C'est ça. Ben, je vais te prendre justement comme exemple. Tu es une femme de caractère, tu es une femme qui a une carrière. C'est parce que là, c'est souvent, ça va être des femmes en situation assez vulnérable, souvent en situation de précarité. Si on veut y aller dans les préjugés, vraiment le stéréotype modèle, là, OK? Désolé pour les auditeurs si ça en choque quelques-uns. La mère monoparentale, célibataire, qui vit de l'aide sociale. Elle a déjà un rythme de vie qui la tient un petit peu en marge de la société, OK? Elle a probablement déjà aussi peut-être été vécu du rejet par rapport à, justement, parce qu'elle n'est pas trop inclus dans la société. Ouais. Souvent, ils viennent d'un milieu où ils ont côtoyé.
Isolés aussi, j'imagine.
Oui, isolés. Puis souvent, ils viennent d'un milieu, tu sais, ils ont vécu ça dans leur jeunesse, d'avoir quelqu'un de la famille qui est un petit peu rebelle, tu sais, borderline magouilleur. T'sais, ils connaissent un peu ce milieu-là. Puis à quelque part, pour eux autres, bien, ça devient un peu la zone de confort.
Et que c'est triste, hein?
C'est très triste parce que les conséquences pour ces femmes-là, premièrement, comme je disais, c'est souvent des gens... c'est rare que c'est des gens très riches, mais ça finit par des pertes financières considérables. Parce que le détenu, lui, là...
Il en a besoin un peu, j'imagine.
Ben, il va jouer beaucoup le chantage émotif. Donc, il va, puis comme il la voit pas souvent, parce que ça lui fait du bien, parce qu'elle est donc bien fine, puis le temps d'une visite, il oublie où ce qui est, puis ci, puis ça. Fait qu'il l'incite à venir, mais exemple, la personne, on va prendre un exemple, monsieur qui est à Cowansville, OK? Mm-hmm. Exemple, une fille du lac Saint-Jean commence à, ben là, il va falloir qu'elle descende à Cowansville. Mais là, pour aller faire des visites en personne le samedi dans la journée, il va probablement arriver le vendredi soir. Donc, on parle d'hôtel, on parle de restaurant,
toutes sortes de choses comme ça.
Tu vois le genre.
Je te suis, oui.
Puis là, ben lui, il va exiger cette présence-là. Donc, cette personne-là, autrement dit, commence à tranquillement à perdre un peu ses repères. Ses fins de semaine vont être consacrées à aller le voir. Pour diminuer l'impact financier, elle, en allant visiter, connaître d'autres visiteuses de détenus. Donc, vont commencer à partager des hôtels pour diminuer les frais. Puis en même temps, ben mettons, le soir, ben ça lui fait un petit social au lieu d'être tout seul à l'hôtel.
Mais c'est une chambre d'écho, tu sais, c'est des gens qui vivent ben, la même chose.
Exactement, et tranquillement, elle s'isole de la société normale pour glisser vers ces fréquentations-là.
Puis ces femmes-là, est-ce que souvent c'est elles qui vont prendre contact avec des détenus ou c'est les détenus qui vont apparaître?
C'est elles.
Ah oh, oui, volontairement.
Parce que la façon que ça marche, les détenus, justement, comme tu disais, ils n'ont pas accès à Internet pour agir, mettons, comme sur Tinder, Facebook rencontre.
C'est-tu des lettres papier?
Bien, c'est ça. C'est... Bien là, en 2025, c'est mettons, le détenu va demander à quelqu'un ou va écrire à ces sites-là pour s'enregistrer, faire sa fiche et tout ça. Mais les premiers contacts vont rester quand même, les premiers contacts vont être des lettres papier. Après ça, on va tomber dans le téléphone, parce que là, la personne, il va l'ajouter sur sa liste de contacts.
Ouais.
Donc, il va pouvoir l'appeler. Et après ça, ben ils vont pouvoir... Avoir des visites, puis comme processus. Des fois, ce monde-là sont déjà un peu dans ces fréquentations-là. Fait que des fois, c'est sans passer par un site de rencontre, ça va être un détenu qui va mettre de la pression à sa visiteuse pour trouver quelqu'un pour son
chum
détenu.
De gars. Oh,
c'est ça.
Life. Fait qu'il y a comme du recrutement un peu à travers tout
fait
ça.
Il y a tout ça, parce que là, bon, il y a l'aspect sexe qui pour eux autres est important. Il y a l'aspect, après ça, ben justement, peut-être essayer de faire rentrer des choses.
Oui, ça, mais ça, c'est intéressant. Ça, on le voit-tu beaucoup aussi d'essayer, parce que là, tu sais, il y a tout le processus au départ pour qu'on soit, entre guillemets, le plus certain possible que ce soit vraiment pour des, encore une fois, entre guillemets, des bonnes raisons.
Oui.
Mais quand même, on n'est pas à l'abri qu'éventuellement, ben, ce soit pour faire rentrer des affaires en dedans.
Ouais.
À quel point les vérifications sont poussées sur ces visiteurs-là?
Ben, nous, on est un organisme, on est des agents de la paix, on est un organisme d'application des lois. Donc, on doit marcher dans un cadre légal avec le plus de faits possible. Je pourrais pas refuser quelqu'un qui soit embarqué sur la liste des visiteurs par simple intuition. Faut que j'aille...
Un motif.
Ben, faut que j'aille quelque chose pour étayer ma réflexion, mettons, là, quand on interdit. Donc, des fois, on a des bonnes croyances qu'on n'est pas sûr que c'est positif. Mais légalement, on ne peut pas toujours.
Okay.
Les détenus jouent beaucoup, puis là, ben, sans trop glisser de ce bord-là, les dernières années avec le gouvernement libéral, où il était très, 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 très. Ils surévaluaient un peu la réinsertion et ces choses-là. Ben, les détenus ont commencé à utiliser leurs avocats pour envoyer des mises en demeure, puis des lettres de menace, puis des menaces de poursuite aux directeurs des différents établissements. Et ben, souvent, les directeurs d'établissement, dans l'incertitude, vont accepter ce qui est demandé par la pression des avocats. Fait que c'est dur de refuser catégoriquement. Par contre, quand il arrive des événements, là, on peut suspendre ou interdire l'accès à des visiteurs.
De base, est-ce qu'ils ont tous les mêmes droits? Puis là, ça, c'est peut-être moi là, qui je suis malsaine quand on parle de ces affaires-là.
Ouais.
Moi, là, écoute, Carl, c'est épouvantable ce que je vais dire, mais dans certains cas de société, la peine de mort, je la ramènerai. Tu sais, je suis un peu... j'ai le sang chaud sur certaines affaires, fait que je vais faire attention.
Mais
ils ont-tu tous les mêmes droits de base? Tu sais, quelqu'un, mettons, justement, un meurtrier qui en a fait, je sais pas combien, des meurtres, puis que tu vois qu'il n'y a aucune sensibilité, puis est-ce que des catégories où tout le monde a droit à ces visites-là, tout le monde a droit de trouver l'amour, tout le monde a droit à la sexualité?
Au départ... Tous les détenus, au départ, sont...
Égaux.
OK? Par contre, il va y avoir des choses selon l'évaluation de certains dossiers. On va prendre un exemple. Oui, on a des détenus qui représentent un haut risque pour des femmes. OK? Donc, même nous, en travaillant, on va essayer d'exposer le moins possible... des femmes à ces détenus-là, soit des agents de libération, n'importe quoi. Donc, eux vont peut-être avoir un processus plus long avant d'être autorisés. OK? Mais légalement, au Canada, autant en société que dans un pénitencier, personne ne peut légalement empêcher un mariage. OK? Mettons, ta sœur décide de se marier avec quelqu'un, mais toi, tu l'aimes pas.
Peut rien faire.
À part arrêter, mettons, de les fréquenter, il n'y a aucune ressource légale de recours pour empêcher un mariage.
Donc, et ça doit être un bordel, ça, là, à gérer après, là.
Ben là, des fois, oui, il y en a des fois que, finalement, elles sont pas accessibles aux visites familiales privées. Mais ça, c'est toujours révisé après une certaine période de temps. Fait que la personne peut être non éligible là, mais plus tard, en cours de sentence, a été éligible.
Ben, ça doit être un outil aussi, dans un certain sens, pour inciter les détenus justement à se tenir drette puis à bien agir. C'est un genre de bonbon de « Hey, si tu fais bien ça... »
J'aimerais te dire oui, mais c'est pas vrai. Ouais. Parce que ce qui va faire que quelqu'un va perdre son droit à une visite familiale privée, autant visiteur que détenu, c'est s'il se passe quelque chose. OK? Exemple, il viole la visiteuse.
Oh, c'est
bon. C'est clair que lui perd son droit de ça. Puis, tu sais, s'il utilise les visites pour différents trafics, ils vont perdre ce droit-là pendant un certain temps. Ou, bon. Mais. Sinon, avant, à part d'avoir des indications vraiment, c'est sûr aussi quelqu'un qui serait fortement documenté d'impliquer dans le trafic, ben ça va peut-être être une justification pour dire non, lui, on ne l'envoie pas. Ou c'est justement lui, ben OK, elle rentrera à 10 heures le matin, puis à 4 heures, elle s'en va.
Est-ce qu'on a déjà vu ça, des relations entre détenus ou des relations agents-détenus? T'as-tu vu ça dans ta carrière ou entendu quelque chose?
C'est gênant à dire, mais l'être humain est un animal. Puis être policier, être agent correctionnel, ça change rien. Donc, oui, on a eu des histoires de flirt, pas beaucoup, OK? Parce que dans la TV, dans les séries, n'importe quoi, ils aiment ça mettre ça de l'accent, puis le monde a l'impression que ça arrive régulièrement.
Ah oui, c'est quasiment sexy, okay? Là, tu sais.
C'est pas vrai. Mais ici, à Québec, on a eu un agent de libération conditionnelle que moi, j'ai connu parce qu'au début, elle travaillait au pénitencier. Ben, lors d'une arrestation policière dans un motel, ils ont arrêté un détenu et elle était avec dans la chambre.
Ah ouais.
Okay? Hey, boy.
Fait que, tu sais...
J'imagine qu'il n'y a pas de tolérance dans ce temps-là. Là. Tu
ben, nous
terminer,
autres,
là?
Non. Puis on a eu une qui avait commencé à avoir des... à le rencontrer, le détenu, lorsqu'il était en libération, avec des amis communs, et ils ont commencé à échanger un peu. Lorsque le détenu est revenu, parce que, mettons, la libération conditionnelle, ça n'a pas marché, le détenu est revenu, tu sais, ces détenus-là, ils trouvent ça le fun de se vanter d'une affaire comme ça.
C'est sûr.
Fait que là, elle aussi a été le bris de confiance, elle a perdu son travail. OK? Mais c'est pas...
c'est pas fréquent.
Non, c'est pas fréquent.
Faut pas qu'on se mette ça dans la tête.
Non, c'est pas fréquent.
Puis les relations entre détenus, comment on gère ça? Parce que ça, je veux dire, c'est sûr qu'il y en a, là.
Ça doit pas toujours être consensuel. On a un peu cette perception-là aussi.
Ben, c'est ça,
la
joke
du savon ramassé à terre.
Ouais, il y a les deux. C'est pas toujours consensuel, effectivement. Il y a certains détenus... on disait que l'être humain peut être un animal. Ben, il y a certains détenus que le moyen, si tu veux, de survivre agréablement, sans danger, dans cet environnement-là, ben, ça va être d'être sous la protection de quelqu'un et ils vont servir de...
Ah ouais, ouais. Hein? Fait que c'est comme de l'échange, je vais dire, du troc.
C'est ça. Par contre, oui, c'est déjà arrivé, des vraies relations... amoureuse, si tu veux, là, entre deux détenus.
Puis vous mettez-vous le nez là-dedans ou le moins possible? Mettons qu'on voit que là, c'est toxique, puis d'un côté, c'est pas de vos affaires, mais en même temps, si c'est toxique, puis ça peut mener à de la violence.
Si ça devient si c'est une vraie relation, mettons, là, ben, ils sont obligés de se plier aux mêmes règles que les autres. Tu sais, il n'y aura pas de passe-droit de dire « OK, tu peux dormir dans sa cellule cette nuit-là.
Okay? » OK, c'est ça, ça ne s'échange chacun, pas les colocs.
Non. Chacun sa cellule,
mais
ça va rester pareil.
Ils doivent avoir le droit, en passant par le processus, éventuellement, d'avoir la fameuse roulotte, là, la chambre?
Moi, je me rappelle pas l'avoir vu à Donnacona, mais je me rappelle l'avoir entendu des discussions de ce style-là.
Okay.
Fait que peut-être ailleurs, là, on est vraiment dans le niché précis. Fait que peut-être que si les deux sont capables de vraiment démontrer « oui, c'est mon chum », puis tu sais, pourraient réussir à peut-être avoir quelque chose.
C'est un sujet ce matin qui fait excessivement réagir, je vais te le dire, Carl, c'est assez impressionnant. Je pense qu'en fait, que tout ce qui touche justement ce qu'on connaît peu, c'est une curiosité qu'on a. Hein? On n'aura pas le choix, je pense, de faire un prise deux. Que ce soit pour les questions d'auditeurs qui sont rentrées sur l'amour aux peines, ou que ce
D'ailleurs, Audrey Pinchot, là, les textos sont rentrés. Ça a l'air que ce joke-là, tu l'as volé à Denis Gravel sans donner de crédit.
En fait, je l'ai volé à un auditeur que Denis a volé hier, effectivement, dans l'émission. Fait que ça revient à notre auditoire, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je me le suis permis.
Ouais, t'as quand même pris tout le crédit.
Les auditeurs nous feed pas mal. Ça, faut que je le donne, effectivement. Je l'ai trouvé excellente. On aura l'occasion d'en reparler, de l'amour au pénitencier, mais je pense qu'on peut faire aussi un genre de les dessous, éventuellement, du pénitencier. Tu sais, la journée typique dans la vie d'un détenu, les jobs qu'ils peuvent avoir, ça dépend de quoi. Sont-tu payés? Il y a tellement de questions. Fait qu'on se refera une partie 2 définitivement, Carl.
Il n'y a pas de problème.
Un gros merci d'être passé ce matin. Carl Ruel, agent correctionnel à la retraite. Et en passant, ça fait quoi, un an là, que tu es à la retraite?
Oui, juillet l'année passée.
Ça te manque-tu?
Non, je vais mieux depuis ce temps-là.
Pour vrai?
Oui.
Sur le mental, c'est quelque chose?
Sur le mental. Moi, quand je suis parti, là, c'est parce que mon mental avait commencé. Ouais. J'aurais pu continuer, faire 30 ans, puis j'aurais bonifié la retraite, puis tout ça, OK? Mais quand je suis parti, là, c'est parce que le mental, moi, il avait lâché.
Hey, on se prendra une note. J'aimerais ça qu'on en rejase de ça de façon un peu plus profonde. Ça doit être 25 ans, là.
Ouais, tu sais, pas tout le monde qui est exposé aux mêmes affaires, mais moi, j'ai toujours été frontline. Moi, tu sais, j'ai passé à travers une tentative de prise d'otage. J'ai reçu un coup de couteau dans la gorge. J'ai subi beaucoup de harcèlement psychologique de certaines personnes de la direction. Tu sais, j'ai décroché des pendus. C'est toutes des choses là, qui, tu sais, qu'à un moment donné, je te dirais, la majorité vont quand même bien dealer avec ça, mais on le sait pas, on voit pas ça venir, et à un moment donné, bang, la tête lâche. Moi, j'étais rendu là.
Hey, mon Dieu, ben, écoute, merci en passant pour ton 25 ans de service, je tiens à te le dire premièrement.
Merci.
Puis bravo d'avoir levé le cap avant qu'il soit peut-être trop tard. Des fois, on pousse notre luck un peu trop.
Oui,
c'est
effectivement,
là que c'est dur de remonter. Là. Je te souhaite une super belle journée. Écoute, on se reprévoit ça, c'est sûr. Je regarde les textos rentrés, on n'aura pas le choix.
Pas de problème.
Carl Ruel, agent correctionnel à la retraite, 25 ans de service du côté de Donnacona, je vous le rappelle. Fait que si vous avez des questions, il connaît son milieu carcéral, on n'aura pas le choix de se faire une prise d'eux sous peu.
Merci, Carl. Merci, Audrey. Au retour, Pascal Cévin s'en vient, puis on n'aura pas le choix de parler de ça. C'est tombé dans la dernière heure et c'est très gros. Un des crimes les plus marquants de l'histoire du Québec, le meurtre de la jeune Catherine Davio, qui a été élucidée près de 17 ans plus tard, a pris le journal et c'est en train de devenir très gros. Il y aura un point de presse du SPVM dans les prochaines heures. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard 102, il est 11h30.
Le Point de Max.
11h37 minutes, puis c'est le temps de vous gâter. Je sais qu'il y en a qui attendent ça depuis le début du show parce qu'à chaque fois que j'en parle, les lignes sonnent, mais on fait pas ça par téléphone, on fait ça par texto au 418-971-1021. Les remparts de Québec qui commencent leur saison en fin de semaine. Et pour l'occasion, pour le match local de dimanche, le 21 septembre, il y a une toute nouvelle terrasse qui fait son apparition au Centre Vidéotron pour vivre l'action de proche en gang lors des matchs des remparts cette année. Section qui est située au bas de des sections 108-109, parfait pour votre groupe de 20 à 30 personnes, genre party de job, party de fête, peu importe, c'est vraiment pour les gangs. Pizza et popcorn à volonté, une consommation alcoolisée, billets pour la terrasse et le match, évidemment. Fait qu'un super beau trip, et spécialement pour en fin de semaine, Boulevard et les remparts vous offrent deux places dans cette nouvelle section privée-là. Le 10e texto à me texter, Rempart, qui va gagner sa paire de billets pour assister au match d'ouverture des remparts en direct de la nouvelle terrasse alimentation première le 21 septembre, donc à 15h. C'est une valeur de 100$ et vous en profiterez pour aller saluer l'escouade Boulevard au parc Jean Béliveau lors du tailgate d'avant-match. Remparts au 418-971-1021 par texto. 418-971-1021 par texto. Pascal CV qui a fait son apparition en studio dans les dernières secondes. Salut Pascal.
Salut Maxime.
Ça va bien?
Ça va très bien toi aussi.
Oui, est-ce que ça va mieux que François Legault hier qui a été copieusement hué avant le match des Capitales?
Ben j'ai pas devant moi le Twitch ni les textos. Peut-être que ça a commencé puis qu'on est en train de me huer là au 88-971-1021. Mais oulala!
Ouh là là! Oh, ce qu'on voit là, ça s'est passé
il
y a quelques minutes.
Oh, ce qu'on voit là! Oh. Tu vois, le gars était surpris.
Un autre qui était surpris, c'était Jonathan Julien. Hein, oui. Il a dit, ben voyons, c'est comme quelque chose d'assez inacceptable.
Ah ouais, hein, c'est un manque de respect.
Ben pour lui, on fait pas ça. Puis il en est même surpris là, que M. Legault se fasse suer. Est-ce qu'ils sont déconnectés à la CAQ? La question se pose, mais je suis certaine. Mais le contentement a été fait de manière non violente et assez directe.
Ah ouais, je pense que moi, j'ai pas de problème contre ça.
Mais quand il est allé visiter la fromagerie Victoria, il n'a pas été hué.
Non, mais ça serait weird. Comme là, avant un match de sport, on dirait que ça, dans fromagerie Victoria, serait comme spécial.
C'est toi que ça fit. Non, mais écoute, on parlait quand même souvent aux propriétaires là, quand ils sont allés du côté de la fromagerie Victoria, les caquistes, ils ont demandé la permission et tout ça, puis ils ont dit, ben là, nous autres, on va pas freiner n'importe qui à venir consommer de la poutine. Sauf que ils se demandaient justement si ça allait pas miner... Hey, écoute, ouais. Là, ça allait pas miner l'image de l'entreprise d'accueillir n'importe quel parti politique.
Ouais, ben on avait vu, il y avait eu une controverse avec ça de mémoire, c'était Éric Duhaime au Saguenay aux dernières élections provinciales.
Des fois, ils ont de la misère à se trouver des locaux pour faire des points de presse ou encore d'être devant une entreprise. C'est assez sensible.
Fait que Jonathan Julien, ce matin, donc, qui a pris la parole.
Oui, tu me lances comme ça. C'est tellement important, en fait, ce dossier-là en ce moment. Puis, c'est en train de tramer les liens qu'on va avoir au municipal avec le provincial. Parce que là, nouveau ministre des Transports, Jonathan Julien, il faut être contre ou pour cette nomination-là. Chose certaine, c'est lui qui y est, puis déjà, oui. Il prend ça au sérieux. Sauf ce qui s'en vient au municipal, c'est une bataille, un coltaillage entre Sam Ahmad et le maire actuel, Bruno Marchand. Oui. Les deux ont des visions assez différentes sur ce qui doit se passer avec le tramway. Sauf qu'on vient de comprendre, veut pas en lisant entre les lignes, que Jonathan Julien... est un petit peu plus du côté du maire Bruno Marchand, le maire actuel, parce que ce matin, en point de presse, il a resté ferme sur la poursuite du projet de tramway. Sans hésitation, il a dit que ça allait se faire. Donc, c'est quasiment un dossier classé au niveau du provincial en ce moment, si on garde la CAQ au pouvoir. Et il a rejeté aussi la proposition formulée la veille par le candidat à la mairie, Sam Ahmad. Donc, lui, Sam Ahmad avait dit, nous, on met sur pause le projet de tramway, on attend le résultat de l'élection municipale et on souhaite justement que les gens votent en fonction de leur choix réel, qu'il y ait ou pas un tramway.
Il va se faire le tramway. Là. On regarde ce qui se passe, les votes qui se divisent entre Aspect citoyen et Sam Ahmad. Bruno Marchand, là, ça s'enligne pour être une balade dans le parc à moins d'une catastrophe. Puis là, en plus, il est backé clairement par le provincial. Ça va se faire. Puis peu importe qui prend le contrôle en passant au provincial après ça, là, le Parti québécois qui s'enligne pour le prendre est pro-tramway. De ce qu'on comprend, le Parti libéral du Québec aussi.
Une chose certaine, il y a des gens qui sont juste écœurés d'en entendre parler. Ils veulent que ça se fasse pour qu'on arrête de parler de ça puis qu'on ne revienne surtout pas dans les débuts d'appel d'offres. Ou encore. Mais il y en a qui sont totalement en désaccord, malgré tout ça, avec le projet de tramway. Est-ce que ça fait partie du 70% des Québécois qui sont insatisfaits du gouvernement Legault? C'est un petit peu plus une question de la région de Québec, quand même, de la capitale nationale, ce tramway-là. Mais ça a fait quand même boule de neige dans la province au complet. Et Jonathan Julien a dit qu'il savait qu'il devait rétablir un genre de sentiment de confiance avec la population.
Et Pascal, on n'a pas le choix d'aborder ça. C'est sorti à peu près dans la dernière heure, là, le journal qui l'a eu en exclusivité, puis il y aura un point de presse des autorités dans les prochaines minutes ou dans la prochaine heure. Un des crimes les plus marquants de l'histoire de la ville de Montréal, le meurtre de la jeune Catherine Davio, qui vient d'être résolu. Ça fait 17 ans que c'est arrivé, puis c'est là qu'on a trouvé le secret dans tout ça.
En fait, le meurtrier. On a épinglé le meurtrier. La seule chose, c'est qu'il est mort. Fait que, je veux dire, une affaire, là, c'est une des nouvelles les plus époustouflantes du dernier mois. C'est ça. C'est captivant. Un des crimes non résolus les plus marquants de Montréal. On retourne en 2008, où cette jeune femme-là était dans son appartement. Finalement, quelqu'un arrive, puis ce qu'on a comme fin de ce drame-là, c'est la jeune femme retrouvée retrouvée ligotée à son lit avec des marques de violence sur son corps et elle est retrouvée nue dans un appartement qui est incendié. On s'entend que côté drame, on est dans le très haut, là. Mm-hmm. On cherchait depuis toujours celui qui avait fait ça à la jeune femme de 26 ans dans un appartement de la 5e avenue à Rosemont le 11 décembre 2008. Elle revenait du travail, là. C'était une journée complètement normale. Bon, on a mis la main dessus. Par contre, il a fallu déterrer. Il a fallu exhumer l'homme en question.
C'est fou, raide, ça.
Puis ça, c'est grâce aux fameuses banques d'ADN. Et à l'aide d'un prélèvement d'ADN, on est parvenu à déterminer qu'il s'agissait bien, bel et bien du tueur en question, celui qu'on a déterré. Et pour le déterrer, on a fait une démarche assez importante parce que c'est un des membres de la famille où le profil est sorti, il n'est pas lié pas du tout au crime, là, et c'est apparu dans les recherches, puis on a fait ça, là, ça va avec l'ADN d'un homme qu'on avait rencontré dans le temps. Mais cet homme-là, il avait un alibi qui avait été quand même assez véridique.
Au
là.
Point où on lâche, puis on n'avait pas de preuves pour aller de l'avant.
C'était pas tangible, on n'était pas capable d'être certain, donc on l'avait laissé aller. Il a vaqué à ses occupations, il a fait sa vie, il en est décédé, bien sûr, de cette vie-là.
Là, il est mort, puis on l'a déterré pour aller chercher la preuve.
Pour aller chercher l'ADN et confirmer effectivement que c'était cet homme-là. Fascinant. Probablement un bon souffle de soulagement de la part de la famille de Catherine Deviau, mais on est rendu ailleurs en termes de recherche scientifique dans ces genres de crimes-là.
Et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Pascal. On t'écoute ce midi avec Jeff Fortin et Antonine aussi qui va être là pour le caucus Iaccarini dès midi. Je termine le show du Point de Max aujourd'hui en vous ramenant dans un extrait d'entrevue de ce matin dans Marceau le matin. Pascal Paradis, le député du Parti québécois qui est passé en entrevue avec nous et on a jasé du pont de Québec. Puis en début de show, je vous ai fait entendre, puis vous l'avez peut-être vu là, en une du Journal de Québec plus tôt aujourd'hui, la femme qui roulait sur le pont de Québec en fin de semaine puis qui a reçu dans son dash des morceaux de pont de Québec qui tombaient du ciel. Ça, ce que je réécoute en passant, si vous l'avez manqué là, sur le blvd.fm, sur l'application Boulevard 102.1 aussi. Et là, un peu plus tard dans le show, après cette discussion-là avec la femme, Marceau en a profité. On avait Pascal Paradis en entrevue, fait qu'on voulait la vision du Parti québécois de Pascal Paradis sur la gestion du pont de Québec. Dans quel état est-il présentement, ce pont-là? Parce que c'est pas normal d'avoir des morceaux de pont qui tombent dans le dash de quelqu'un qui roule sur le pont. Et on se questionne un peu des fois sur des questions de sécurité. Fait que je vous laisse avec ça. Et nous, on se dit à demain 6h dans Marceau le matin et dès 10h aussi pour le Point de Max. Bon mercredi, profitez de la belle journée. Il fait beau, il fait chaud, salut.
Juste vous parler du pont de Québec.